Bienvenue à chacun ici cet après-midi pour notre rencontre avec Éric Denimal. Moi, j'ai énormément de plaisir à être ici cet après-midi, non seulement pour écouter Éric, mais aussi parce que Éric est un ami de très longue date, que je n'ai pas vu depuis probablement une dizaine d'années, et donc c'est l'occasion de se retrouver pour cette rencontre. Alors, Éric est en fait, dans les églises, moi je trouve que Éric est un personnage un petit peu à part. Et lorsque j'ai appris il n'y a pas très longtemps qu'il avait écrit ou qu'il avait été invité à écrire la Bible pour les nuls, je me suis dit, ça c'est pile poil le genre de choses qu'Éric écrirait. Et s'il y a quelqu'un dans les églises que je connais qui serait peut-être le mieux placé pour écrire la Bible pour les nuls, c'est Éric. Non pas qu'il ne comprend pas grand-chose, mais plutôt dans le sens, si on connaît un petit peu la série pour les nuls, c'est d'arriver à dire des choses qui aujourd'hui paraissent compliquées ou vieilles, mais pour que les gens s'y intéressent et en tirent quelque chose. Alors je me suis dit, écrire quand même la Bible pour les nuls, c'est pas rien. Mais après, de se dire que quelques mois plus tard, c'est un livre qui se vend mais vraiment très très bien, à des dizaines, si pas des centaines de milliers d'exemplaires aujourd'hui dans notre pays, ça veut dire qu'il y a encore, ou du moins il y a parmi nos contemporains aujourd'hui, un désir et une soif d'entendre ce que ce livre, parfois un peu poussiéreux, écrit tout petit, qu'on lit seulement dans les moments difficiles de notre vie, a encore à dire aujourd'hui. Mais avec Éric, il y avait beaucoup plus de choses qui me reviennent à l'esprit. Avec Éric, on s'est rencontrés juste avant la grande campagne Billy Graham en 1986. Alors peut-être certains d'entre vous n'étaient pas nés à l'époque, mais c'était juste avant la grande campagne, au moment où les églises françaises se réunissaient aussi pour proclamer l'évangile d'une façon assez extraordinaire, parce que on utilisait la technologie pour la première fois, tout ce qui était vidéo, on retransmettait ça dans plein de sites en France, et on avait l'impression à ce moment-là qu'on était vraiment à l'avant-garde presque de la proclamation de l'évangile en France, et il y avait toute une série de personnes, dont Éric et moi-même et d'autres, qui étions là et qui avions vraiment envie de voir notre pays entendre l'évangile, mais d'une façon contemporaine, d'une façon qui faisait sens pour toutes ces personnes. Et donc Éric et moi, on avait travaillé au service de presse de la campagne, puis on a continué à travailler ensemble par la suite. Alors Éric est pasteur dans les églises libres, mais ça fait des années qu'il n'avait pas été pasteur, parce qu'en fait, son premier talent, et la première chose que moi je lui reconnais, et sur laquelle il a beaucoup travaillé, c'est en tant que journaliste. Arriver à écrire ce qui préoccupe les chrétiens, mais ce qui est aussi la bonne nouvelle, d'une façon que les gens puissent l'entendre et s'y intéresser. Donc il a été rédacteur de l'hebdomadaire Le Christianisme au XXe siècle, il a travaillé pour la Ligue pour la lecture de la Bible, et puis il a écrit un certain nombre d'ouvrages, tous les uns plus intéressants que les autres, mais toujours avec cette préoccupation, comment est-ce que nos contemporains, eux, entendent et écoutent l'Évangile ? Et ça a toujours été un fil conducteur, je crois, dans la vie d'Éric, de vouloir aller et sortir pour aller dire l'évangile aux gens, mais avec leurs préoccupations. Il y a une autre chose qui m'a toujours frappé avec Éric aussi, c'est que c'est tout en aimant l'Église comme c'est pas possible, il est très conscient des limites qu'on a dans notre Église et de quelquefois les défauts qu'on peut avoir ou les barrières qu'on élève quelquefois qui sont des obstacles pour nos contemporains pour qu'ils écoutent et entendent l'évangile. Et Éric a toujours, parmi ceux que je connais, été celui qui a toujours su rire de l'Église, l'aimer, mais en même temps essayer de trouver des moyens de dire l'évangile pour que les gens l'entendent. Alors, lorsque dans notre église, il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à dire « il faut vraiment qu'on retrouve un élan d'évangélisation », lorsque des gens dans l'église disent « mais notre pays de Gex, on aimerait rayonner dans ce pays de Gex pour qu'ils entendent la parole », on s'est dit « très bien, faisons venir quelqu'un qui pourra peut-être nous dire un petit peu comment notre monde aujourd'hui entend ou n'entend pas l'évangile, qu'est-ce qui fait encore obstacle peut-être dans nos églises, mais qu'est-ce qui les attire aussi ?» Pourquoi est-ce que 100 000 exemplaires de la Bible pour les nuls ont été vendus en quelques mois? Pourquoi? Qu'est-ce que le monde autour de nous attend? Alors on lui a posé trois questions à Eric. Et on lui a dit, il y a trois choses qu'on aimerait que tu nous aides à comprendre. La première, c'est vraiment, lorsqu'on annonce l'évangile, quelle devrait être notre attitude vis-à-vis de nos contemporains? Est-ce que c'est plutôt qu'on va, et comme les syndicats et les partis politiques, on essaye de faire revenir les gens et les ramener dans notre église? Ou alors est-ce qu'on fait comme Jésus, on se met sur les routes et on part et on annonce la parole? Aide-nous, Eric, à comprendre un petit peu ça. L'autre chose aussi, c'est, nous, on a une idée bien claire de qui est Jésus. Parce qu'on a lu la Bible, parce qu'on en parle tous les dimanches, parce qu'on a été élevé peut-être là-dedans. Mais les gens qui ne sont plus allés à l'église depuis très longtemps, qu'est-ce que ces personnes savent? Qu'est-ce qui les attire en Jésus? Ça aussi, et là peut-être Eric aura des choses à nous dire aussi. Et la troisième chose demain, c'est aussi de nous motiver. Est-ce que nous cherchons à ce que les gens viennent chez nous et on organise nos propres activités pour qu'elles viennent entendre ce que nous avons à leur dire? Ou alors comment est-ce qu'on sort de chez nous et on va à la rencontre de des personnes qui sont là-bas, qui s'en préoccupent peut-être pas? Donc on a laissé ces trois questions, puis on l'a dit, écoute Eric, avec tout ce que toi tu as vécu, tout ce que tu as vu, tout ce que tu as discuté avec des personnes, les questions qu'on te pose aujourd'hui dans la Bible pour les nuls, est-ce que tu voudrais bien partager un tout petit peu de cela avec nous? Alors c'est vraiment mon très grand plaisir de laisser la parole à Eric. Avant ça, je voudrais simplement que nous puissions prier ensemble. Après l'intervention d'Eric, vous aurez aussi l'occasion de poser vos questions. Donc s'il y a des choses qui ne sont pas claires dans ce qu'il dit ou des choses qui provoquent une réflexion chez vous, n'hésitez pas à la fin à en faire part parce que ça sera pour le bénéfice de tout le monde et on aura l'occasion d'avoir un échange à ce moment-là. Mais je vous invite à quelques instants de prière avant de passer la parole à Eric. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire un grand merci pour cette occasion de se retrouver entre nous cet après-midi pour écouter ce que tu as mis sur le cœur d'Eric, mais aussi toute l'expérience que tu lui as donnée au cours de ces années de ministère. Seigneur, nous voulons être à ton écoute cet après-midi, mais nous voulons aussi être ensemble, Seigneur, pour nous stimuler les uns les autres, stimuler notre réflexion, notre motivation, afin que notre cœur soit toujours plus ouvert pour aller vers l'extérieur, Seigneur, et te faire connaître. C'est entre Dieu, nous prions pour le monde dans lequel nous vivons. Il n'est pas trop grand pour toi, Seigneur, et nous ne sommes pas trop nombreux sur cette terre, des 7 milliards que nous sommes, Seigneur, pour ton amour et pour ta souveraineté et pour ton action. Alors, Seigneur, nous prions pour notre pays de Gex, mais on prie pour la France, on prie pour notre vieux continent qu'est l'Europe, mais aussi pour tout le monde, Seigneur, et malgré les obstacles et malgré les difficultés. Et Seigneur, nous voulons te demander que tu renouvelles notre vision pour la proclamation de ta parole, pour notre témoignage, pour notre fierté, Seigneur, de te connaître. Et nous te demandons, Seigneur, que ces interventions durant ce week-end puissent nous faire tous du bien. Au nom de Jésus, amen. Eric, je te laisse la parole.
Eh bien, après tout ce qui a été dit me concernant, j'ai l'intérêt à être à la hauteur. Ouais, ça dit des belles choses, c'était sympa. Ouais, je t'inviterai le jour de mon enterrement, j'aimerais que ce soit toi qui fasses ma nécro. J'avais l'impression d'un seul... Eric a fait. D'un seul coup, je me suis senti un peu mort. Je suis donc très content d'être là cet après-midi avec vous. Très content, bien sûr, de retrouver John et son épouse. On a plein de choses à se raconter parce que c'est vrai qu'on s'est un peu perdu de vue, mais il existe des liens d'amitié, des liens de fraternité qui font que même si le temps passe, et parfois chacun vit son histoire, quand on se retrouve, c'est comme si on ne s'était pas quitté. En plus, on n'a pas changé. On a juste pris un peu de poids. C'est pas la peine d'insister non plus, lui il dit oui. C'est pas trop fort? Bon, j'ai pas l'habitude d'avoir le micro de cette façon-là, alors j'ai l'impression que je vais loucher un peu. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui et demain, ça va être le fruit effectivement de réflexion, de partage. je ne suis pas là comme un grand spécialiste. J'ai vécu un certain nombre de choses. On a essayé de réfléchir parfois à plusieurs sur ce souci que nous avons de transmettre l'évangile, d'abord à nos enfants et puis à ceux qui nous entourent. Et force est de constater qu'on n'y parvient pas toujours. Et je ne vous propose pas des recettes, je ne suis pas master chef de l'évangile, mais un certain nombre de choses quand même qu'il faut parfois redécouvrir. Et puis parfois, les expériences, elles sont là aussi pour aider les autres. Cet après-midi, je voudrais démarrer avec cette réflexion de Pierre dans le livre des Actes, au chapitre 4. Pierre qui dit à un moment donné, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Cela se trouve donc dans le livre des Actes au chapitre 4. Et vous connaissez, je pense, cet épisode où Pierre et Jean se retrouvent devant le grand conseil de le Sanhédrin à Jérusalem. Nous sommes à quelques mois de la mort et de la résurrection de Jésus. Et Pierre et Jean et les autres apôtres se mettent à parler de l'évangile, ils parlent de Jésus, ils parlent de la résurrection, et ça embarrasse le Sanhédrin, ça embarrasse les religieux, parce que les religieux, quelques mois auparavant, étaient embarrassés par Jésus. Pour eux, Jésus, c'était une déviance du judaïsme pur. Ils n'avaient pas compris grand-chose. Il faut dire que Jésus vient bouleverser pas mal de choses, donc ce n'était pas nécessairement facile à comprendre. Nous, 20 siècles plus tard, avec 20 siècles d'histoire de l'Église, il nous semble que les Juifs auraient dû comprendre. Mais a priori, non. Et donc les Juifs qui avaient peur d'une déviance, d'une secte au sein du judaïsme, avec cette troupe de Jésus et de ses disciples, ont éliminé le problème en coupant la tête à la secte, entre guillemets, c'est-à-dire en éliminant Jésus. Et ils pensaient que le problème était résolu. Le problème, c'est que, pour eux en tout cas, c'est que les disciples continuent, et même avec plus d'enthousiasme. Et j'imagine bien le Sanhédrin en train de se dire, mais mince, on pensait s'être débarrassé de ce problème, et le voilà qui ressurgit. Alors, on convoque Pierre et Jean, et on insiste en disant, ça suffit, ça suffit. Vous devez vous taire. Vous devez arrêter de parler, de proclamer, d'avoir une proclamation si publique qui bouleverse tout Jérusalem. Et à ce moment-là, Pierre dit, donc au chapitre 4, au verset 20, 19, jugez en vous-même, est-il juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu? Aujourd'hui, ce n'est pas le Sanhédrin qui nous fait taire parfois. C'est un certain nombre de peurs ou une fausse laïcité. Enfin bref. Jugez, vaut-il mieux obéir à Dieu ou à vous? Quant à nous, nous ne pouvons pas garder le silence sur ce que nous avons vu et entendu. Bien sûr, les témoins de la résurrection de Jésus sont tout frais dans leur foi nouvelle. Et ils sont un peu comme quand on se convertit, on est tout feu, tout flamme, et on a envie de proclamer, alors on a vraiment le peps, on a vraiment envie d'y aller. Et à ce moment-là, on fonce. Mais il me semble qu'en tant que chrétien, à toutes les époques de notre vie et de notre témoignage, nous devrions pouvoir dire, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Pas quelque chose, une expérience qu'on a vécue il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans ou 15 ans. Ah oui, je me souviens quand je me suis converti. Mais c'est tous les jours que nous devrions, en tant que chrétiens, vivre quelque chose de fort avec Dieu. Et donc, tous les jours, on devrait pouvoir dire, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous venons de voir et de ce que nous venons d'entendre. Je me souviens d'un personnage que j'ai rencontré, j'en reparlerai peut-être plus tard. C'est la première personne que j'ai interviewée, il y a de cela 35 ans. C'était Richard Wurmbrand, qui avait été dans les prisons roumaines pendant, je crois, 18 ans, à peu près. Et on lui avait demandé de se taire et on l'avait mis en prison parce que, sous le régime de Ceausescu, il ne fallait pas parler de l'Évangile. Et il racontait qu'à un moment donné, la police qui était là, qui voulait le faire changer d'avis, lui dit, mais de toute façon, il faut arrêter, Dieu est mort. Il a répondu, mais ça m'étonnerait beaucoup, il y a 5 minutes, je viens de lui parler. Bien sûr, c'est un petit peu naïf peut-être de dire les choses comme ça, mais nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous venons d'entendre. Si nous venons de vivre encore quelque chose avec le Seigneur, peut-être pas nécessairement quelque chose d'exaltant comme la conversion, mais chaque expérience avec Dieu est quelque chose de fort. Et chaque chose devrait nous permettre de dire, nous ne pouvons pas ne pas en parler. Qu'est-ce qui nous empêche d'en parler? Nous ne sommes pas en France, même si le terrain est un peu difficile, nous ne sommes pas dans des lieux de persécution. Si l'on pense un seul instant que quelques moqueries, quelques indifférences ou quelques critiques sont des manifestations de violence à notre égard ou de la persécution, que vont dire ceux qui se trouvent dans les pays islamistes et qui ne peuvent pas exprimer leur foi chrétienne? Que dire de ces gens qui sont prisonniers, qui sont agressés, qui sont parfois supprimés aujourd'hui dans certains pays parce qu'ils essaient de vivre leur foi chrétienne? Ça, c'est de la vraie persécution. Nous, aujourd'hui, si on se moque de nous ou si on ne nous écoute pas, on dit « Ah, le terrain est dur, c'est pénible, on n'y arrive pas ». C'est rien, franchement, c'est rien. C'est rien. Il nous faut nous souvenir qu'actuellement, aujourd'hui, il y a des gens en prison à cause de leur foi chrétienne. Et eux disent ce qu'ils pensent. Aujourd'hui, si nous, dans un climat comme le nôtre, nous n'osons pas dire notre foi, nous ne faisons pas honneur à celui qui nous a sauvés et surtout, nous faisons sans doute honte à ceux qui vivent des persécutions réelles. Donc, quelque part, la première des choses que nous devons nous dire lorsqu'il s'agit de transmettre l'évangile, c'est que la transmission de l'évangile ou l'évangélisation, ou le gros mot, le prosélytisme, ce n'est pas une option. C'est un ordre du Seigneur. C'est une obligation. Nous ne pouvons pas ne pas parler. Si nous prenons conscience que tous ceux qui n'ont pas reçu Jésus-Christ, si nous prenons conscience que ces personnes-là sont des morts, laissez les morts ensevelir les morts, disait Jésus. Si nous ne prenons pas conscience que ces gens sont des gens morts, sans aucune espérance, sans aucun sens à leur vie, alors c'est sûr que nous n'avons pas tellement envie d'aller leur dire quelque chose. Mais si nous savons que toutes ces personnes-là sont des mortes en puissance, ne pas aller à leur rencontre, c'est de la non-assistance à personne en danger de mort et de mort éternelle. Ça fout la pétoche un peu ça, hein, quand même. Ça nous responsabilise terriblement. Ça veut dire, oh là là, j'ai pas parlé à mon voisin, que c'est grave. Et si jamais demain il meurt, c'est pour l'éternité, j'aurais pas fait. Bon, on peut effectivement se culpabiliser de cette façon-là. Mais nous ne sommes pas non plus responsables de toutes les personnes qui sont autour de nous. Ça ne veut pas dire que nous ne devons pas nous en préoccuper. Il ne s'agit pas d'aller faire du porte-à-porte en disant, le Seigneur revient peut-être tout à l'heure. Est-ce que tu es prêt? Ou bien toutes sortes de petites choses comme ça. Parce que parfois, simplement dire « Le Seigneur revient, es-tu prêt ?» Ça nous semble assez facile à comprendre dans notre terminologie. Mais imaginez un petit peu le gars qui frappe à votre porte et dit « Vous savez pas, Napoléon revient. » Ouais. Vous avez eu un accident de poussette quand vous étiez petit? On vous a bercé trop près du mur? Le Seigneur revient, ça veut rien dire pour quelqu'un qui ne sait pas qui est le Seigneur. C'est comme si effectivement on disait que Napoléon revient. Bon, ça fait un peu bizarre. Donc il ne s'agit pas nécessairement de se sentir responsable de tout le monde et de devoir tout de suite chercher chaque occasion pour dire Dieu aux personnes qui sont autour de nous. Parce qu'il faut agir avec sagesse. Mais nous sommes quand même responsables, dans une certaine mesure, de toutes les personnes qui sont autour de nous, parce que les personnes qui sont autour de nous n'auront pas d'autres contemporains que ceux qu'ils ont, et nous sommes dans leur histoire. Nous sommes dans leur histoire. Et ils sont dans la nôtre. On pourrait choisir d'autres climats, d'autres décors, d'autres personnes autour de nous, mais celles qui sont autour de nous sont là. Et il faut faire avec. Aussi bien avec les gens de sa famille qu'avec les gens de son voisinage et de ses alentours. Donc, nous n'avons pas à chercher meilleur moment, une meilleure situation, une meilleure circonstance, meilleur prochain. J'aimerais bien évangéliser un prochain qui soit clean, à la limite qui soit déjà converti. Parce que quelqu'un qui est violent, quelqu'un qui se drogue, quelqu'un qui sent mauvais, quelqu'un qui est... J'ai pas envie d'aller vers ces gens-là. Et si on attend que les gens soient clean pour leur annoncer l'évangile, on peut encore attendre longtemps. Personne n'est clean, nous sommes tous pécheurs. Donc, nous sommes tous pas clean. Puisque le péché, c'est la tâche. Clean, c'est sans tâche. Donc, quelque part, nous ne sommes pas clean non plus. Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Moi, je m'oblige à me souvenir, je m'oblige à me souvenir qu'aujourd'hui, il y a des gens qui souffrent pour leur foi. Parce que je pourrais ne pas m'en souvenir. Je pourrais avoir reçu cette information-là de temps en temps, et puis voilà, c'est comme le débit de la Loire. Qu'est-ce que vous voulez que ça change ma vie? Toutes les semaines, chaque semaine, je reçois de la part de Portes Ouvertes un témoignage vrai de quelqu'un qui vit en ce moment des situations difficiles. Et tous les vendredis, ma femme et moi, nous prions pour cette personne. Et vendredi prochain, ce sera quelqu'un d'autre. Et ça m'oblige à me souvenir qu'il y a tout le temps quelqu'un qui souffre pour sa foi. Et du coup, mes petits bobos au sein de nos églises qui sont si malades, c'est rien du tout. Mais il faut parfois s'obliger à cela. Pas simplement dire oui, je le sais, mais j'ai pas le temps, ou bien de temps en temps j'y pense, et puis de temps en temps le pasteur en parle, ou bien le responsable de l'assemblée nous incline à prier dans ce sens. Ok. Mais je crois qu'il faut se donner des obligations aussi, parce que nous sommes pas comme les ordinateurs, nous avons des mémoires qui s'effacent facilement. Remarquez certains ordinateurs aussi. Et ça pose problème, un ordinateur qui n'a plus de mémoire. Un chrétien qui n'a pas de mémoire, ça pose problème aussi. On me dit parfois aujourd'hui, oui, mais vous savez, nous sommes dans une France laïque, il faut respecter les uns et les autres, etc. Oui, je suis d'accord. Dans un sens, il faut respecter. Mais en même temps, je refuse que l'on m'oblige à cloisonner ma foi dans le domaine privé. Je le refuse. Et vous devez le refuser. Parce que la foi, ce n'est pas une affaire privée. Parce que la foi nous oblige, entre autres, à aimer le prochain, et le prochain, il est à l'extérieur de chez moi. C'est plus que du privé, la foi. Puisque la foi, quand elle se met en œuvre, elle peut changer la vie des autres. Elle change la mienne, mais elle change aussi la vie des autres. Elle change l'histoire des autres, et du coup, elle change l'histoire. Je ne suis pas en tant que chrétien hors de l'histoire. Ça, c'est quelque chose que l'apôtre Jacques, enfin non, l'auteur de l'épître de Jacques, dit. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, etc., etc. Il dit un certain nombre de choses de ce sens, et pourquoi est-ce qu'il dit ça? Il dit, vous subissez aujourd'hui la persécution, vous subissez aujourd'hui des choses terribles, et vous pourriez ne plus persévérer dans votre foi. Vous pouvez être un petit peu découragé parce qu'on avait dit que le Seigneur reviendrait, il ne revient pas. On avait dit, de notre vivant, nous verrons le Seigneur, il n'est pas revenu encore. Et non seulement il n'est pas revenu, mais on commence à voir des apôtres qui disparaissent. Les témoins disparaissent, les témoins directs disparaissent. Alors on pourrait être découragé en disant, mais est-ce qu'on a eu raison de croire ou pas? Et il dit persévérer. Il dit persévérer, et quand il dit persévérer, quand il dit regardez comme un sujet de joie parfaite les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés, il dit, la joie parfaite dans les épreuves, c'est quoi cette religion de sadique, masochiste, je ne sais pas quoi? Il dit, tout ça produit la patience. Tout ça donne la... Et puis il dit, et s'il vous manque de sagesse, si vous manquez de sagesse, demandez et vous recevrez. Et on peut se poser la question de savoir, c'est quoi la sagesse à ce niveau-là? Est-ce qu'il faut être sage dans la persévérance, dans la patience? C'est quoi la sagesse? Quand on réfléchit comme un grec, excusez-moi d'être un petit peu savant, enfin faire semblant d'être savant, parce qu'au royaume des aveugles, les borgnes sont rois, Mais la sagesse grecque, dans le langage grec, c'est la maturité, c'est la connaissance, parce qu'on commence à avoir des cheveux blancs, parce qu'on a tout vu, tout expérimenté, et on commence à avoir suffisamment d'expérience pour vous donner quelques conseils. Ça, c'est la sagesse grecque. Le problème, c'est qu'on est dans une civilisation où on est dans un public plutôt juif. Jacques, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. 12 tribus qui sont dans la dispersion, c'est quand même une connotation hébraïque. Et quand on regarde ce qu'est la sagesse chez les Hébreux, on se rend compte que la sagesse chez les Hébreux n'est pas tout à fait la même que la sagesse chez les Grecs. Chez les Hébreux, la sagesse, c'est le discernement du temps dans lequel on est. C'est différent. Découvrez dans quelle époque on est et comprenez cette époque et entrez dans cette époque. Et je ne vais pas faire une étude biblique sur Jacques, mais ce que Jacques dit en gros, c'est ne subissez pas l'histoire, ne subissez pas les épreuves, entrez dans l'histoire. Entrez dans l'histoire parce que, en entrant dans l'histoire, vous, en tant que chrétien, vous pouvez la changer. Vous vous rendez compte? Ce n'est pas du Inch'Allah, c'est entrer dans l'histoire pour la changer. Parce que vous êtes co-ouvrier avec Dieu et l'histoire que Dieu dessine, il la dessine avec vous. Et vous pouvez changer le cours de l'histoire. Les grands sages de l'Ancien Testament sont tous des gens qui ont changé le cours de l'histoire. Un des grands sages dans l'Ancien Testament, par exemple, je suis en train de changer complètement ce que j'étais prévu de dire, mais c'était normal. J'ai même pas ouvert ma chemise, mais celle-là non plus. Mais un des grands sages, c'est Joseph dans l'Ancien Testament. Vous connaissez l'histoire de Joseph? C'est une histoire qu'on a racontée 1000 fois aux enfants à l'école du dimanche, sur laquelle en général on ne prêche plus. C'est dommage. Mais Joseph a connu toutes sortes d'histoires difficiles dans sa vie, et puis brusquement, il sort de sa prison, il arrive devant la cour du pharaon, le pharaon a eu un rêve. Vous vous souvenez ou bien il faut que je raconte tout? Vous savez, l'histoire de Joseph, elle est très importante dans le livre de la Genèse. Le livre de la Genèse est un gros livre. Mais l'histoire de Joseph, elle fait presque la moitié du livre de la Genèse. Je crois qu'il fait 20 chapitres, rien que l'histoire de Joseph. Encore plus qu'Abraham. Vous imaginez, c'est intéressant de voir ça, proportionnellement. Mais l'histoire de Joseph, elle est intéressante. Donc le pharaon a eu un rêve bizarroïde. Vous savez, c'est cette histoire des vaches. Les vaches grasses qui sont dévorées par les vaches maigres. Et puis les gros épis qui sont dévorés par les petits épis. Et le pharaon, il n'a rien compris. Ben, faut dire aussi que c'est un peu bizarre, hein. On se demande s'il n'a pas un peu fumé. Mais il ne comprend pas. Et ces sages, les sages du pharaon, les devins, ne parviennent pas non plus à trouver le sens du rêve. Mais il est persuadé que ce rêve a un sens. Et on se souvient qu'il y a en prison un type qui est capable d'interpréter les rêves, alors on va le chercher. Et on fait venir Joseph. Alors on le nettoie un petit peu parce que quand même, il reste en prison assez longtemps pour qu'il sente mauvais, il soit barbu, etc. Et les barbus, on ne les aime pas, surtout chez les Égyptiens, parce qu'on les rase, on chauffe, enfin bref. On le change complètement et puis on le présente. Et Joseph va dire, écoute, c'est pas moi qui vais interpréter, c'est Dieu. Première chose, faut oser le faire hein, devant Pharaon qui est incarnation d'un dieu, avec l'Égypte qui a toute une collection, tout un panthéon de dieux. Et il va expliquer, il va dire, voilà ce que veut dire ce rêve. Et maintenant, débrouille-toi. Il aurait pu dire ça. Maintenant, débrouille-toi. Je retourne dans ma prison. J'étais au calme, tranquille, j'avais mon petit boulot, pépère, on ne me dérangeait plus. Bon, non. Il dit, voilà, je suis capable de discerner ce que va être le temps. Vous savez, en tant que chrétien, nous sommes capables de discerner ce que sera le temps. Pas la météo. Ça, on va laisser ça à Romeshko. Mais le temps qui passe, nous savons qu'il y a un temps avec un début, une fin, avec un Dieu qui conduit le temps et l'histoire. Nous savons Nous avons un privilège énorme. Le monde aujourd'hui ne sait pas où il va. Les banquiers non plus. Surtout les banquiers. Après nous avoir tous mis dans la... Oh, il y a peut-être des banquiers ici, il faut que je fasse gaffe. Et j'ai pas encore... Oui, il faut faire gaffe. Et j'ai pas encore vu le trésorier. Donc... Ah Seigneur, il faut se faire des amis avec les richesses injustes. Enfin bref. Je suis capable de comprendre un peu le sens dans lequel va l'histoire en tant que chrétien. Parce que, quoi qu'on en dise, c'est Dieu qui aura le dernier mot. Quoi qu'on en dise, qu'on le veuille ou pas. Donc je sais que Dieu va conduire l'histoire. Et il a donné quelques indices, ils sont dans la Bible. Et pas que dans l'Apocalypse. Je suis un peu comme Joseph en face de Pharaon. Je sais ce que sera l'histoire. En fait, il va y avoir des années d'abondance suivies d'années de disette. Aujourd'hui, on est capable de dire les années d'abondance, on les a eues. On est dans les années de disette. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Oh, moi, je m'en préoccupe. Moi, je retourne dans ma prison. Moi, je retourne dans mon église bien fermée, bien calfeutrée, tupperware, sans odeur vers l'extérieur, tranquille. Ou bien, attitude de Joseph, voilà ce qui va se passer. Maintenant, si j'étais toi, voilà ce que je ferais. Il faut que l'Église, aujourd'hui, soit capable de dire, voilà dans quel temps nous sommes, voilà ce que nous pensons qu'il faudrait faire. Bien sûr, c'est drôlement difficile. Bien sûr, ce n'est peut-être pas facile. On peut difficilement aller voir Sarko en lui disant, voilà ce qu'il faut faire. Peut-être qu'il vous écoutera un petit peu parce qu'il commence à être en campagne électorale. Mais, ce n'est pas nécessairement à ce niveau-là que nous avons à travailler, c'est au niveau où nous sommes. S'il y a des banquiers, dans le domaine de la banque, voilà où nous en sommes, voilà ce qu'il faudrait peut-être faire si on est éclairé par Dieu. Et quelle est la réponse de Pharaon quand Joseph dit « Ah ben voilà ce qu'il faudrait faire, moi si j'étais toi, j'engrangerais, je préparerais, etc. » Enfin bref, il fait tout un plan économique. À long terme, il s'investit pour l'avenir de l'Égypte qui n'est pas son pays, qu'il a mis en prison. Et la réponse du Pharaon, c'est « Trouverions-nous quelqu'un d'aussi sage ?» Trouverions-nous quelqu'un d'aussi sage ? Alors voilà, puisque tu es plein de cette sagesse-là que nous n'avons pas, que mes devins n'ont pas, que mes spécialistes du CAC 40 n'ont pas, voilà, on te donne les rênes du pouvoir. Alors bien sûr, c'est une histoire assez incroyable, mais elle est pleine d'indices pour moi. Elle me dit, en tant que chrétien, je dois entrer dans l'histoire parce que je peux la changer. Je peux la changer. À mon niveau, je suis persuadé qu'un banquier honnête peut changer l'ambiance de toute une banque. Ah, il y a du boulot, hein ? Ah oui. Mais le Seigneur ne nous a jamais encouragés à la paresse. Donc il y a des choses à faire. Je suis persuadé que le meilleur enseignant peut transformer l'ambiance de toute une école. J'en suis persuadé. J'ai travaillé dans une rédaction de journal. De temps en temps, je donnais des exemples. Alors je suis désolé si ce sont des exemples qui me montrent en exemple, mais c'est... Voilà. Je pourrais dire, j'ai connu quelqu'un qui... disait l'apôtre Paul, a été élevé jusqu'au 7e ciel. Non, j'ai travaillé dans une rédaction de tout un groupe de presse. Moi, j'avais mon petit journal, mais il y avait plusieurs journaux, dont certains étaient peut-être un peu surprenants. Il y en avait un qui s'appelait « De sous-mode international ». Tu te souviens? Il voulait des exemplaires gratos. Je ne m'occupais pas de la rédaction de ce journal, mais je côtoyais de temps en temps les journalistes qui y travaillaient. Il y en avait un autre qui était le courrier du Parlement. Vous voyez, le courrier du Parlement. C'est un journal qui était que pour les élus. D'ailleurs, c'est incroyable, c'était vraiment pour les élus, ils ne payaient même pas leur abonnement. Ça fait partie des privilèges, des petites niches, machin, enfin bref. Allô, Sarko, j'en connais une autre. Bon, et puis un jour, bon, bah, après avoir travaillé pendant presque 10 ans dans ce groupe, je suis parti pour d'autres choses. Et puis, à peu près 6 mois plus tard, je suis revenu voir la secrétaire générale du patron et pour discuter comme ça un petit peu. Et cette femme, elle me dit, vous savez, Eric, toute l'ambiance a changé depuis que vous êtes parti. Je dis, toute l'ambiance, attendez, dans l'équipe que j'ai laissée. Elle dit, non, non, pas dans l'équipe que vous avez laissée du journal, dans l'ensemble, sur toute la plateforme. Je dis, mais comment ça se fait? Je travaillais pas. Votre façon d'être, votre façon d'aborder les choses, votre façon de dire, votre façon de rire, votre façon de, etc. Ça a créé une ambiance. Et puis vous êtes parti et l'ambiance est tombée. D'ailleurs, ils ont fait faillite après. Bon, mais j'y suis pour rien. Mais encore une fois, la simple présence du chrétien quelque part peut changer l'histoire. Joseph, avant cet épisode dont je parlais, Joseph, aussi étonnamment que l'on puisse le supposer, on le voit attaché à son Dieu, pourtant il ne parle pas beaucoup à Dieu, on ne le voit pas souvent prier, on ne l'entend pas prier. Mais voilà, il reste fidèle à son Dieu, et quand il a été vendu comme esclave, Potiphar l'a acheté, et il travaillait là en tant qu'esclave, mais à cause de la présence de Joseph, toutes les affaires de Potiphar prospéraient. Comment se fait-il? Il ne témoignait pas nécessairement, mais peut-être était-il correct dans ce qu'il faisait, peut-être apportait-il une autre ambiance, peut-être transportait-il avec lui un peu du Dieu auquel il appartenait. Il n'empêche qu'à cause de sa présence, toutes les affaires de Potiphar prospéraient. Et puis il y a Jonas, par exemple. Jonas qui, lui, est un prophète de l'Éternel, un spécialiste de Dieu, un bibliste, un théologien, tout ce que vous voulez. Clean, de chez Clean. Sans doute a-t-il été au bénéfice de Vaux-sur-Seine. Mais du temps de ton père, surtout. Et Dieu lui demande quelque chose. Et Jonas désobéit. D'accord? Il désobéit. Et quand il se retrouve dans le bateau, c'est tout l'équipage qui est en danger à cause de lui. Je suis persuadé qu'un chrétien fidèle transforme positivement autour de lui son entourage. Je suis persuadé qu'un chrétien infidèle n'apporte pas de bon. C'est tout l'équipage qui est en danger à cause d'un homme qui désobéit. C'est intéressant ça, hein? C'est impressionnant. Ça veut dire que en tant que chrétien, je suis la lumière du monde et le sel de la terre, pas seulement le dimanche matin. Et il me faut être témoin de l'Évangile à chaque instant. Ce n'est pas facile. Et ce n'est pas en disant toujours Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Parce qu'on pourrait dire Jésus-Christ et la caravane passe. Mais en vivant, en étant témoin, en étant avant d'être parole de l'Évangile, être geste de l'Évangile. Je suis très impressionné, on en reparlera ce week-end, je suis impressionné de voir que Jésus n'évangélise pas simplement par le message qu'il donne, mais par les choses qu'il fait, par les choses qu'il montre. Et il y a tout un message à décoder dans l'attitude de Jésus, pas simplement dans ce qu'il dit. Nous sommes toujours en train d'étudier ce qu'il dit, la façon dont il répond, etc. Il faut voir, et on en parlera, je pense, demain. Il faut voir de quelle façon il agit, ce qu'il fait là et ce qu'il fait là. Ça a quoi comme signe? Ça a quoi comme sens? Et on va se rendre compte qu'il y a du sens. Parfois, c'est notre attitude qui change tout. Et après, les gens disent, mais tu es différent. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait ça? Je me souviens encore une fois, un exemple, quand j'étais journaliste, j'avais fait une série d'interviews sur les grands patrons protestants en France. J'en avais trouvé, bon, pas des évangéliques, mais des protestants. Et entre autres, j'avais rencontré Jérôme Monod, qui était d'origine réformée, qui fait partie de cette grande dynastie des monos qui ont donné des pasteurs, des missionnaires, mais aussi des physiciens, qui d'ailleurs n'étaient qui étaient athées. Et Jérôme Monod était alors le directeur de la générale des, non, de la Lyonnaise des Eaux. Et je m'étais mal informé au début, je pensais que la Lyonnaise des Eaux, c'était très lyonnais, quoi. Tu rigoles, tu te moques de moi. C'est pas gentil. Non, je pensais que la Lyonnaise des Eaux, bon, ben voilà, c'était Lyon et la banlieue éventuellement. Puis je me suis rendu compte que la Lyonnaise des Eaux, c'était une multinationale. Et que, bon, c'était énorme. Même en France, c'était énorme. La Lyonnaise des Eaux, c'est une grande propriétaire de presque toutes les eaux, mais aussi de toutes les marbreries, de toutes les menuiseries, de toutes les pompes funèbres. Enfin bref, il paraît qu'il y avait un lien. Bon. Et donc, un matin, j'étais dans le bureau, dans le siège social de la Lyonnaise des Eaux. Pardon, oui, de la Lyonnaise des Eaux. Et le directeur de la communication de la Lyonnaise des Eaux était aussi présent à cette interview. Il me faisait la gueule parce que on avait cette interview à 7 h du matin au siège de la Lyonnaise. Il n'était pas content d'être là si tôt, lui. J'ai pris mon petit déjeuner donc avec ce Jérôme Monod et on a parlé bien sûr de toutes sortes de choses et je le ramenais au protestantisme, à ce qu'il avait pu recevoir de la Bible, etc. Et en fait, toute son éthique découlait de sa connaissance biblique, sans pour autant qu'il la revendique. Et en sortant, au bout d'une heure d'entretien, en sortant, le directeur de la com me raccompagne vers la sortie et puis me dit, vous savez, monsieur Denimal, je suis obligé d'être souvent présent lors d'interviews, vous avez posé des questions qu'aucun journaliste ne lui a posées. C'est sûr, moi, je n'étais pas le Figaro Magazine, je n'étais pas les Échos, j'étais le christianisme au XXe siècle. 6 000 abonnés qui tous ne payaient pas. Et si, si, des gens très radins. Il y a des gens qui nous écrivaient, ils disaient, monsieur, j'ai 84 ans, je ne m'abonne que pour 6 mois. Je vous assure que c'est vrai. Parce que quand on est protestant, on compte ses sous. On est généreux et pingre à la fois. Enfin bref. Bon, enfin bref. Et 6 mois plus tard, la dame disait, je me réabonne pour 6 mois. Jusqu'au jour où on n'avait plus de courrier. On faisait suivre. Et donc, évidemment, j'avais posé des questions que le journaliste des Échos ne posait pas à Jérôme Monod. Et ce gars me dit, mais vous savez, il y a quand même une chose. Moi, je travaille avec Monsieur Monod depuis 15 ans. Je trouve que c'est un type génial, bon, bien sûr. Il dit, mais je n'avais jamais pris conscience que toute sa façon d'être, y compris avec le plus petit des ouvriers de la société, découle d'une éthique chrétienne. Je ne soupçonnais pas ça. Alors peut-être qu'on pourrait dire qu'il aurait pu en parler, il aurait pu dire que c'est à cause de la Bible, etc. Non, il n'en a parlé pas, mais il y avait une différence. Il y avait une différence. Bon, après, Jérôme Monod a quitté la Lyonnaise, il est devenu conseiller de Chirac. Eh oui, les voies du Seigneur sont impénétrables. Enfin, c'est étonnant. Enfin, Jésus a dit, hein, jetez vos filets à droite. Bon. Mais c'est vrai, Jésus est à la droite de Dieu. Donc Dieu est à gauche de Jésus. Maintenant, vous dépatouillez. Cela dit, je crois que en tant que chrétiens, nous devons transporter avec nous notre identité de chrétien. De la même façon que chaque pays a son accent, sa couleur, etc., nous devons avoir le nôtre. Notre couleur, notre accent. J'en reparlerai sans doute aussi. Il ne s'agit pas nécessairement d'avoir un langage codé, au contraire, et d'être différent. Mais il faut que nous soyons quand même repérables et que l'on puisse dire, bon, il y a quelque chose de différent chez lui. Pourquoi? Ça peut me déranger. Et souvent, ça me dérange. Et c'est une chose que l'on doit aussi accepter. Nous avons un évangile qui change la vie de ceux qui l'acceptent, mais qui dérange tous ceux qui n'en veulent pas. Et le fait d'être dérangé fait que parfois on devient violent à l'égard de celui qui dérange. C'est exactement le lot qui est, de ce qu'a vécu Jésus. Il dérange et du coup, on l'élimine. Alors bien sûr, il ne faut pas déranger au point d'être éliminé, mais quand bien même, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Encore faut-il, quand on parle, parler de façon intelligente. Ça, c'est peut-être un autre volet qui est important. Il n'y a pas très longtemps, j'étais dans une communauté, je ne dirais pas laquelle, ce n'est pas la peine, mais toutes les personnes qui étaient là, quand elles parlaient, je me disais, elles parlaient entre elles, etc. Je disais, mais moi, pourtant, je suis dans le milieu depuis longtemps, mais je suis dérangé par la façon qu'ils ont de parler. Une espèce de langage angélique, naïf, sympathique au demeurant, mais parfois un peu déconnecté d'une vraie réalité. Et si nous voulons être entendus, il nous faut parler le même langage que ceux qui sont autour de nous. Nous avons tendance, dès que nous devenons chrétiens, à entrer dans une culture. Dans une culture qui est bien sûr la culture chrétienne, mais qui est très différente des autres cultures. D'abord, nous sommes en rupture avec la culture précédente. Hein? Nous quittons une culture en tant que non-croyants pour devenir croyants, en tant que non-chrétiens pour devenir chrétiens. Je quitte une culture. Ce déracinement est déjà une chose assez difficile. Mais on entre dans une autre culture avec ses codes, avec son langage, avec ses habitudes, avec ses rites, qui fait qu'en très peu de temps, nous devenons cette culture et nous ne sommes plus nécessairement compris par les gens d'à côté. Très rapidement, je ne te comprends plus. Je me souviens bien, quand je me suis converti, j'étais avec une bande de copains, enfin j'avais une bande de copains, etc. Et puis, dès la conversion, ce qui était tellement important pour moi ne l'est plus devenu. On aimait bien se retrouver le samedi en bande pour aller chanter, danser, machin, etc. C'était super. On était en Alsace, on allait dans les kilbes. Vous savez pas ce que c'est qu'une kilbe en Alsace? C'est un truc où c'est un peu comme les kermesses de la bière, mais en Alsace. Les chopes sont encore plus grosses. Et pour faire descendre tout ça, il y a une choucroute légère. On fait la fête. Et moi, j'aimais bien ça. À la limite, j'attendais dès le lundi, le samedi. Et puis, dès la conversion, c'était plus du tout intéressant. Alors, je suis resté quand même avec les copains, mais ils me disaient, mais attends, t'as changé, qu'est-ce qui se passe? Ben, je m'amuse plus avec vous. C'est embêtant de dire ça avec les copains, je m'amuse plus avec vous, c'est plus intéressant. Par contre, vous voulez que je vous parle de Jésus? Ça, c'est un flop terrible. Et progressivement, vous n'avez même pas besoin de vous éloigner. On vous éloigne. Vous êtes différent. Et c'est très difficile de revenir vers les autres en disant « Mais tu sais, attends, non, je voudrais partager quelque chose avec toi. » C'est très difficile. Nous changeons de culture et en même temps, nous avons besoin de rester un peu en contact avec cette culture que nous avons quittée. Non pas pour apprécier encore certaines choses, mais parce qu'il nous faut être solidaires et humains avec les humains qui sont autour de nous. Et là, il me semble que nous avons beaucoup de travail à faire. Et la première chose que nous avons à faire, il faut que je m'arrête, la première chose que nous avons à faire, c'est d'aimer. C'est d'aimer. Et si nous n'aimons pas, nous n'avons absolument pas envie de transmettre l'évangile. Si nous n'aimons pas, nous n'avons même aucune raison de transmettre l'évangile. Et une des choses que nous devons sans doute demander à Dieu avant tout, c'est « Seigneur, donne-moi d'aimer ». On avait demandé à William Booth, ou peut-être à Catherine Booth, enfin je ne sais pas, à quelqu'un de la famille Booth, J'avais demandé, c'est quoi le rôle du chrétien? Il a dit trois choses. Aimer, aimer, aimer. Si, quand j'étais jeune, et même avant moi, il y avait une expression que l'on utilisait volontiers, je pense que Brian s'en souvient, ça c'est la mémoire vive, c'est il faut avoir la passion des âmes. Une expression qu'on n'utilise plus aujourd'hui, avoir la passion des âmes. Passion, on a déjà du mal à savoir ce que c'est, les âmes. Et pourtant, il me semble que c'est très important d'aimer. Et comme c'est une chose extrêmement difficile, c'est une chose qu'il nous faut demander dans la prière. Sans cesse. Seigneur, donne-moi d'aimer. D'aimer même ceux qui ne sont pas aimables. Ça veut dire même ceux qui ne sont pas dignes d'être aimés, a priori. Et j'ai besoin de garder cet amour qui est difficile parce que franchement, franchement, on a l'impression de gaspiller cet amour. Parce qu'il n'est pas nécessairement entendu, parce qu'il n'est pas nécessairement reçu, parce qu'il n'est pas nécessairement compris. Mais il n'empêche que c'est ça qui doit faire tomber un certain nombre de barrières. Si je n'arrive pas à dire l'évangile autour de moi, c'est peut-être parce que je n'aime pas assez les personnes vers lesquelles je devrais me tourner. Et nous sommes faits comme nous sommes faits, hein. L'amour est véritablement quelque chose qui est difficile. C'est sans doute pour cela que Dieu est amour. Moi, je ne suis pas amour. Seigneur, tu sais que je t'aime. Enfin, tu sais que j'ai de l'affection. Enfin, tu sais que je t'apprécie. Enfin, tu sais que... enfin, tu sais toutes choses. Mais donne-moi d'aimer. Donne-moi d'aimer. Si vous vous posez la question de savoir comment on fait l'évangélisation, comment reparler à mes contemporains aujourd'hui, la première des choses que vous avez à faire, c'est des réunions de prière ensemble pour dire au Seigneur, Seigneur, donne-nous en tant qu'Église d'être capable d'aimer et d'arrêter ce travers si français, doublé de ce travers si évangélique de la critique permanente. Le monde dans lequel nous sommes n'est pas un monde beau, c'est vrai, mais il n'empêche que c'est le monde que Dieu a créé. Et c'est le monde dans lequel il nous a placés, et c'est le monde pour lequel il continue à aimer suffisamment pour donner son Fils. Donc, je dois arrêter de dénigrer sans cesse le monde dans lequel je suis. Beaucoup d'églises disent le monde est foutu, le monde est malade, le monde est pervers, le monde est sale, le monde est... Dans un sens, c'est vrai. Mais pour le moment, c'est encore le monde dans lequel nous sommes et c'est le monde que Dieu tient toujours dans ses mains. Donc il nous faut nous en souvenir et il nous faut prendre conscience que dans ce monde-là, ce dont ont besoin les gens, c'est l'amour. Mais ce dont a besoin l'Église, c'est l'amour. Je m'arrête. Parce que je pense que j'ai fait le temps qui était imparti, mais je suis à votre écoute pour des questions, pour des précisions, pour d'autres petites choses. Enfin, je sais pas.
Oui,
C'est toi,
on va laisser la place.
Monsieur Loyal.
Merci, merci beaucoup, Eric. Faut que j'en prépare une ou deux pour ce soir et demain. C'est avec toi qu'on avait interviewé Robert Hossein pour Pluriel. D'accord. Ok, je ne me souvenais plus.
On a fait semblant que tu étais photographe pour accepter ta présence. Tu te souviens, on a mangé deux fois à l'œil, du coup.
Il est dur, parce que c'est moi qui ai obtenu l'interview, et on a bien mangé.
C'est
parce
vrai.
Que Robert Hossein nous avait posé un lapin une première fois.
Oui.
D'accord. Ok, non, moi, il y a deux choses qui me frappent dans ce que Eric a dit aujourd'hui, on devrait le savoir. Mais. C'est vrai que cette distinction entre la sagesse grecque et la sagesse hébraïque, bon, je la connaissais, mais d'ajouter le fait que nous sommes appelés à entrer dans l'histoire, à entrer dans le vécu. Et souvent, on donne comme exemple que la meilleure illustration de la sagesse hébraïque, c'est le livre des Proverbes, qui est un livre extrêmement pratique. Mais là, l'exemple que tu donnais aussi de Joseph, d'avoir eu cette parole de sagesse, mais en même temps d'être prêt d'entrer dans l'histoire. Et ça, je crois que c'est une des choses, en tout cas, que moi j'ai apprises ce soir et qui m'interpelle. La deuxième chose, c'est ce que tu disais à propos de l'amour, de ne pas avoir peur de gaspiller l'amour. Et c'est vrai que quelquefois on se dit, l'évangile sont des perles, on ne va pas le donner au pourceau, on ne va pas n'importe qui. Et on a des réserves, mais là, d'aimer sans avoir peur de gaspiller l'amour. Et ça, je trouve que c'est des choses extrêmement importantes.
Il y a une parabole permanente, me semble-t-il. La nature est là pour nous parler aussi. Une parabole permanente concernant l'amour, c'est la semence. Quelle que soit la semence, qu'elle soit humaine ou celle du pissenlit, vous voyez le nombre de graines. Hein, bon, la semence humaine, c'est la même chose. Il n'y en a qu'un qui gagne la course, ok, d'accord. Mais il y a une profusion. Et je pense que ça, c'est véritablement le geste d'amour de Dieu. Je sème à tout vent. Bon, ça, c'est la rousse. Mais je sème à tout vent, c'est la parabole du semeur. Qu'importe si de l'amour tombe à côté, c'est pas grave. Mais au moins, qu'il n'y ait pas un endroit qui puisse dire « Moi, je n'ai pas eu ma dose ». Et en tant que chrétiens, nous devons semer. De cette façon, semer et s'aimer.
Alors maintenant, si vous avez des questions ou des
témoignages, noter, celle-là,
ça ne m'étonne pas de toi, Eric. S'il y a des questions ou des témoignages ou des choses qui vous font tilt en pensant à ce qu'Eric a dit.
Mais à quelque part, ça met un petit peu notre façon de parler, toujours de faire cette différence entre, attention, nous sommes dans le monde, mais surtout pas du monde. Ça laisse la limite floue, plus floue. Ça offre aussi une perméabilité d'un côté comme de l'autre.
Oui, mais il faut oser la perméabilité. Moi, j'ai toujours trouvé que la gymnastique extraordinaire qu'on nous enseigne dans les églises le dimanche matin, vous êtes du monde, mais vous n'êtes pas dans le monde, vous ne devez pas être du monde, etc., c'est l'inverse. Hein, oui. Bon. Non, mais je voulais voir si tu écoutais encore. Mais je trouve que c'est une acrobatie impossible. Donc, Jésus était en permanence au milieu des siens. Il était sur les chemins, il n'était pas sur son trône, etc. Il était sur les chemins, à la rencontre des gens. Il a vécu ce qu'ont vécu les gens. Nous devons vivre la même chose. Bien sûr, je peux être perméable, mais celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc, je dois avoir cette assurance-là. Je ne suis pas nécessairement appelé à aller partout. Il y a des gens qui vont dans les prisons, il y a des aumôniers, il y a des gens qui font des travaux extraordinaires dans les prisons, où ils rencontrent des gens très durs, très difficiles. Ils y vont, ils ne disent pas « Oh là là, je vais être contaminé, je vais revenir violent, ou drogué, ou n'importe quoi. » Ils y vont, ils ont quelque chose à transmettre. Je ne suis pas nécessairement capable de faire la même chose. Mais ce que je sais, c'est que le Seigneur va envoyer quelqu'un là. Et peut-être que le Seigneur m'attend quelque part, et tant que je n'y vais pas, il n'envoie personne d'autre. C'est comme pour Jonas, encore une fois. Dieu aurait pu dire « Bon, ben, Jonas, il se fait porter pâle. » Ok, on va trouver quelqu'un d'autre. Non. Quand il a choisi Jonas, il savait que potentiellement, Jonas avait les ressources nécessaires pour réussir. Sauf qu'il n'avait pas envie. Alors Jonas décide de ne pas le faire. Mais Dieu ne dit pas « je vais remplacer Jonas ». Il dit « il était capable de le faire, il va le faire ». À coup de pied dans le derrière, s'il faut, mais il va le faire. Parce que c'est lui qui est capable de faire. De temps en temps, je reçois des coups de pied dans le derrière. Et le Seigneur me dit, tu ne devais pas y aller. C'est pas toi qui devais y aller. Alors vas-y, qu'est-ce que t'attends? Oui, Seigneur, je suis trop petit, je ne suis pas capable. Si je te demande de le faire, c'est que je sais que tu en es capable. J'ai jamais mis sur le dos de quelqu'un un fardeau qu'il ne peut pas porter. Par contre, si je t'appelle, c'est que je sais. Si nous sommes appelés à quelque chose, il faut arrêter qu'on soit timide ou alors qu'on fasse le faux modeste. Oh ben j'attends une lettre recommandée du Seigneur. Purée, tu l'as là la lettre recommandée et je te la recommande. Mes lunettes. Mais il faut arrêter de confondre la spiritualité et la superstition. Attendre que le Seigneur me parle de façon très précise, c'est à la limite de la superstition. Le Seigneur me parle au travers de sa parole. Et si je ne comprends pas au travers de sa parole, peut-être il va utiliser des grands moyens. Mais il ne va pas commencer par les grands moyens. Et de la même façon, si quelque chose... Le Seigneur ne fera pas ce qu'il m'a demandé de faire et que je ne fais pas. Ok ? Ça veut dire que tant que ce qu'il m'a demandé de faire, je ne le fais pas, il y a quelque chose qui reste bloqué dans l'histoire. Et ça, il faut que j'en prenne conscience. Je peux appeler le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit n'est pas un oreiller de sage de paresse. Le Saint-Esprit ne va pas faire ce que je suis capable de faire. Et le Saint-Esprit fera ce que je ne suis pas capable de faire. Ok. Par exemple, convaincre quelqu'un. Moi, je voudrais absolument convaincre quelqu'un. Oh, si tu pouvais te convertir, ce serait bien. Mais la Bible me dit, c'est le Saint-Esprit qui convainc. Moi, je suis là pour présenter. Je suis là pour témoigner. Je suis là comme poteau indicateur qui montre la route. Si c'est pour moi, vous dites que je suis occupé. Il est évident que tant que le Seigneur me demande quelque chose, si je ne le fais pas, cette chose ne sera pas faite. C'est toi, c'était ta mission. Tu retardes peut-être le plan de Dieu parce que tu ne fais pas, mais il faut que tu y ailles. Il faut relire l'histoire de Jonas de cette façon-là. Il faut relire l'histoire de Jonas avec cette importance. Pourquoi finalement Jonas ne veut pas aller à Ninive ? On pourrait se poser la question, pourquoi est-ce qu'il ne veut pas ? Parce que Ninive, ça a une mauvaise réputation, c'est sûr. Alors il a peut-être peur de la perméabilité. Bon, mais le Seigneur lui demande d'aller là-bas. Donc si le Seigneur demande d'aller là-bas, c'est qu'il dit, t'en es capable, et puis je n'ai pas peur pour toi, pour ton intégrité. Jonas ne veut pas y aller. Et à la fin de l'histoire, quand tout change, Jonas dit, je savais que c'est comme ça que ça allait se finir. Non mais ça, c'est quand même un peu culotté, non mais franchement. Même moi qui discute avec Dieu un petit peu comme Don Camillo, et parfois je n'ose pas faire ce que Jonas a fait. Je savais que c'était ça que tu allais faire. Et alors qu'est-ce qui te gênait là-dedans ? Que finalement j'apporte des bénédictions à un peuple qui ne les mérite pas ? C'est grave ça. Tu as décidé qui pouvait bénéficier ou pas bénéficier de mes bénédictions ? C'est toi qui as jugé d'avance les Ninivites ? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et je dois prendre conscience. Et tant que Jonas ne va pas chez les Ninivites sont un peuple rebelle, insupportable pour Dieu. Mais tout insupportable pour Dieu et tout cruel qu'ils sont, ils sont capables d'entendre une parole qui va les bouleverser. C'est intéressant aussi ça. On ne peut pas changer la mentalité de toute une ville quand on est Jonas, quand on pue le poisson. Parce que franchement, 3 jours dans le poisson, je n'ai pas rien qu'à cuire du poisson. Vous avez déjà l'odeur sur vous, vous imaginez quand vous êtes dedans. Et Jonas avait un autocollant, hein, ictus, là derrière.
Une autre question, ça vous fait penser à quelque chose, à un témoignage ?
Ouais, moi, ça me fait penser à l'assurance, parce que Dieu change les vies. Et quand on voit la manière dont il change les vies, ça doit être un moteur pour nous d'annoncer, quoi. Parce que il change les vies au niveau de la société, quoi. Il nous comble, on reprend une place dans la société. Des gens qui sont cassés, et bien, je veux dire, ils passent d'une position de rien à une position honorable, quoi. Je crois que c'est motivant, quoi.
Mais en même temps, il faut beaucoup de patience parce que on peut voir des fruits, mais on peut aussi semer longtemps avant qu'on ait des fruits. Et ça, c'est une expérience qui peut être aussi difficile, hein. Il y a des gens, on dirait que tout réussit chez eux. Je me souviens à l'Institut biblique, il y avait un gars qui faisait le marché. À chaque fois qu'il faisait le marché, il revenait en disant « J'ai eu plein de contacts, j'ai vendu 4 Bibles, etc. » Tous les autres, désespérément, toute l'année, ils n'arrivaient pas à en vendre une. Lui, il en vendait 4 par samedi. On se demandait ce qu'il faisait. On se demandait s'il les vendait vraiment, d'ailleurs. Enfin, il était un peu arménien, donc je pense qu'il négociait. Mais Mais il avait un contact fantastique, etc. Et là, on est en face de ça, on dit, mais c'est pas possible, moi je galère, j'y arrive pas, etc. Et puis le Seigneur dit, mais voilà, ça c'est la fonction de lui. Voilà, n'essaie pas de le copier, tu vas pas être un autre lui. Hein. Toi, tu vas être autrement ailleurs, parce qu'il faut lui à cet endroit, mais il te faut toi là. Et là, il faut que tu trouves ton climat, il faut que tu trouves ta couleur, il faut que tu trouves ton rôle. Tu as un rôle, il faut que tu trouves. C'est pas parce que lui, il fait très bien ça, que c'est comme ça qu'on est le plus spirituel, en essayant d'imiter. Hein, qu'est-ce qu'on peut essayer d'imiter? Hein, il se passe ça dans tel pays, on veut absolument la même chose, on veut les mêmes types de cultes, etc. On n'est pas dans la même culture. Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Bien. Alors Eric, on va te laisser aussi l'occasion de nous parler un petit peu de ton ouvrage « La Bible pour les nuls ». Est-ce que tu
Combien
peux nous
en... Non, parce qu'il m'a fallu 15 mois pour l'écrire, donc...
Et moi, 10 minutes pour le lire.
Ben dis donc, tu lis vite.
Non, donc est-ce que tu veux nous présenter un petit peu ton ouvrage et les livres que tu as apportés?
Là aussi, si vous voulez... Bon, j'en reparlerai peut-être, j'en sais rien. Ce qui est important, c'est de savoir ce qui est à l'origine de cette idée de la Bible pour les nuls. Comme tu disais tout à l'heure dans la présentation, tu disais, oh, il n'y avait que lui qui pouvait faire ça. C'est vrai que je pense que le jour où j'ai pris contact avec les éditions First, donc, qui fait la collection pour les nuls, c'était en 2003. Les éditions First commençaient un petit peu à être connues en France, mais surtout pour tout ce qui touchait l'informatique. Windows pour les nuls, Internet pour les nuls, enfin bref. Et à la suite d'une conversation avec un ami commun, dont on parlait tout à l'heure, je lui dis, mais tu sais, ce qu'il faudrait, c'est une Bible pour les nuls. Et en ayant dit ça, ça vous arrive peut-être parfois, vous dites quelque chose, puis après vous réfléchissez, vous dites, tiens, finalement, c'est pas une mauvaise idée. Moi, ça m'arrive souvent. Et puis, je me rends compte que c'est des idées que les autres ont parfois eues. Alors, je vais vérifier sur Internet et je découvre que la Bible pour les nuls, ça n'existe pas. Donc, je prends contact avec la maison d'édition et je dis à ce moment-là, à cette maison d'édition, une formule magique. Vous n'êtes pas sans savoir. Ça veut dire, je suis sûr que vous ne savez pas, mais on va faire semblant. Vous n'êtes pas sans savoir que la Bible est le livre le plus traduit au monde, le plus distribué, etc. Et c'est le Bible qui est le moins lu, qui a besoin d'être expliqué. Donc il me semble que la Bible pour les nuls, ce serait bien dans la collection. Et puis ils ont trouvé l'idée géniale, et puis voilà, on s'est rencontrés avec l'éditeur, on a travaillé un petit peu pendant un certain temps, parce qu'il fallait qu'il découvre qui c'est qui avait eu cette idée bizarre. Et c'est vrai qu'à un moment donné, l'éditrice me dit... finalement, je ne vois personne d'autre que vous. Pourtant, elle ne me connaissait pas beaucoup hein, pour écrire ce livre. Et elle me dit, mais pourquoi vous voulez faire ça? Et j'ai dit, voilà, ce qui me semble important, c'est pour moi, la Bible a un message fort. Un message si fort qu'il est dommage que les gens ne l'entendent pas. Et il faudrait que les gens, au lieu de critiquer l'Église, critiquer les curés, critiquer les pasteurs, critiquer la religion, etc., qu'ils puissent avoir un outil qui leur permette de découvrir, mais finalement, il y a quoi dans la Bible? Parce qu'on dit la Bible, la Bible, la Bible, mais si vous faites un sondage, il y a eu un sondage qui a été fait il n'y a pas très longtemps, bah, les gens ne connaissent pas grand-chose de la Bible. Ils connaissent un petit peu Moïse parce qu'il y a eu une comédie musicale. Vous voyez la culture? Moi, j'ai un voisin, je lui ai dit, il me dit, j'ai entendu dire qu'il fallait louer Dieu. Je dis, oui, c'est vrai, il faut louer Dieu. Il dit, mais moi, j'avais déjà une maison à louer, mais je ne vois pas comment on loue Dieu. Voilà le niveau, quoi. Là, il y a du boulot, hein. Là, on se rend compte qu'il y a une méconnaissance, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, moi, ce que j'ai envie, c'est que les gens puissent découvrir ce qu'il y a dans la Bible, qu'on leur propose ce qu'il y a dans la Bible sans interprétation, parce que les interprétations, ça fait les églises et ça fait les guerres de religion, sans autre chose que, voilà, dans la Genèse il y a ça, dans l'Exode il y a ça, dans le Lévitique il y a ça, qui est l'auteur, pourquoi, comment, à quel moment, etc. Donc un livre d'introduction à la Bible qui présente le texte comme une œuvre littéraire, sans plus. Et puis, je suis parti du principe que le texte parlait de lui-même. Donc beaucoup de citations. Et Et le succès de la Bible pour les nuls vient de ce que beaucoup de personnes ont envie de connaître. C'est quoi finalement la Bible ? Mais n'ont pas envie d'être récupérés par une église ou par une religion. Et donc ils se méfient. Si la Bible pour les nuls s'était appelée autrement, la Bible mode d'emploi par exemple, publiée à la Société biblique, tout de suite à la Société biblique, évidemment, il y a une orientation. Si le même livre était publié aux éditions Bayard, c'est catholique, donc il y a peut-être une orientation, une récupération, etc. Là, c'est dans une maison d'édition qui fait du pédagogique. Et donc, les gens se sont empressés, on peut dire ça, hein, 6 000, les 6 000 premiers exemplaires étaient vendus en 2 mois. Il n'y avait pas de publicité. Donc, c'est que, franchement, les gens avaient envie de découvrir quelque chose de la Bible. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on est à 100 000 vendus, et on sait que dans les 100 000 vendus, il y a 7% vendus dans les librairies religieuses. 7%. Tout le reste, Fnac, Cultura, Leclerc, Auchan, Carrefour et les bonnes librairies. Donc, il y a une attente de la part du grand public. Il y a une attente, et cette attente, on y répond quand on présente les choses, tout simplement. Et je dirais simplement, avec la Bible pour les nuls, je raconte la Bible. Je ne la prêche pas. Il y a toute une différence, du coup, dans le ton et dans le choix des mots.
Je ne sais pas si vous avez déjà acheté des ouvrages dans la série pour les nuls, mais généralement, lorsqu'on achète un ouvrage de ce type-là, c'est parce qu'on cherche une solution. On cherche une réponse à une question que l'on a. Et moi, j'ai quelques livres pour les nuls qui étaient trop compliqués pour moi. J'ai dû trouver une série encore un peu plus...
Il y a une série qui existe aux États-Unis, c'est pour les idiots.
Non, mais il y en a une autre qui est pour les personnes qui sont absolument complètement troublées, dans utterly confused, les personnes qui sont complètement comment dire
à la rue.
Confused.
Alors la Bible pour les nuls, il y a depuis mai ou juin, il y a une version junior. La version junior a été complètement réécrite pour les adolescents. C'est une nouveauté dans la collection pour les nuls. C'est depuis peu que la collection a proposé pour les juniors. Et donc, la Bible junior, c'est bien sûr plus court, hein, c'est plus lisible encore, plus facile, il y a plus d'humour. J'ai eu beaucoup de mal, parce que j'ai beaucoup de mal avec l'humour, vous avez compris. Puis j'ai travaillé avec un dessinateur humoristique qui a fait quelques dessins qui sont absolument superbes. Il y en a beaucoup que j'aime bien. Il y en a deux que j'aime bien. Il y en a un, c'est Noé, qui est à côté de son arche et il est en train de pêcher. Et Dieu lui dit, Noé, pour les poissons, c'est pas la peine. On n'y avait pas pensé. Mais celui que je préfère, c'est Jésus qui doit avoir 7 ou 8 ans, qui se tourne vers Marie et qui lui dit, Maman, on fait comment les bébés ? Je pense que c'était celle qui avait le plus de mal à répondre.
Il y a quelques jours, j'ai un collègue qui vient me voir. Il me dit, John, tu sais, quand je faisais mes cours de philo, il fallait lire tous ces grands textes fondateurs de la civilisation, dont la Bible. Et il dit, je me suis attelé, alors lui, il est cambodgien, et puis donc d'une culture non chrétienne, il me dit, je me suis attelé à le lire, à le lire, à le lire, et je suis arrivé à l'examen, et je n'ai pas réussi mon examen. Mais j'avais un autre collègue à côté de moi, un autre cambodgien, qui lui a réussi son examen. Et je lui dis, mais comment est-ce que tu as fait ? Il m'a dit, j'ai trouvé un secret, je suis allé dans une librairie, et j'ai pris la Bible en bande dessinée. Et il dit, j'ai lu, et maintenant je sais tout ce que la Bible contient, ou du moins suffisamment, pour réussir mon examen, mais aussi pour savoir ce qu'elle dit. Et mon collègue, qui lui, a repris la Bible en bande dessinée après, pour au moins se dire, très bien, aujourd'hui je sais ce que dit la Bible. Et donc encore une fois, la Bible pour les nuls, les gens achètent cette série parce qu'ils cherchent des solutions, et peut-être parce qu'il y a encore une grande soif dans notre monde d'aujourd'hui. Et donc, si vous voulez, maintenant, on va terminer. Je vais terminer par la prière. On va se retrouver ce soir à 20h30. Mais après, Eric est encore ici, et vous pouvez feuilleter l'ouvrage là-bas, ou les autres ouvrages aussi, ou poser des questions à Eric. Mais il sera encore avec nous ce soir et demain matin. Je vous invite à prier. Seigneur éternel, nous voulons te remercier pour ce que tu as enseigné à Eric au travers de ces années d'expérience, de discussions, d'interviews, de rencontres avec tellement de nos contemporains. Et Seigneur, nous voulons te remercier aussi pour la façon dont tu l'aides à discerner des choses dans ta parole pour nous les livrer. Et nous te remercions pour ces idées qu'il nous a laissées cet après-midi. Seigneur, nous voulons te remercier aussi pour cette interpellation, Seigneur, à... Tu nous as laissés dans le monde, Seigneur, pour être une lumière pour le monde. Tu nous as laissés dans le monde pour être le sel. Tu nous as laissés dans le monde, Seigneur, oui, pour entrer dans cette histoire et apporter ta parole. Et Seigneur, nous voulons nous souvenir que toi, tu as séjourné sur cette terre 3 ans. Et ensuite, tu as confié à tes témoins de colporter, d'apporter cette parole jusqu'aux extrémités de la terre et de génération en génération. Et tu vois les dizaines, si pas les centaines de générations depuis que cette parole a commencé et nous en sommes les bénéficiaires aujourd'hui. Alors Seigneur, nous voulons aussi reprendre courage. Nous voulons de nouveau être motivés, Seigneur, par cette tâche que tu nous confies, mais aussi par la certitude que tu marches devant nous et que tu es avec nous. Et oui, que c'est ton Saint-Esprit qui convainc et c'est nous qui proclamons. Seigneur, fais-nous encore du bien, enseigne-nous encore durant la rencontre de ce soir et de demain, nous te prions. Et que cela puisse être aussi pour l'avancement de ton règne dans notre monde et dans les mondes que nous fréquentons les uns et les autres au quotidien. Au nom de Jésus, amen.